Ben, c'est ça le problème avec toi, Félix. On le sait pas, t'es qui.
Ça va?
On verrait fou, man.
Tu peux m'appeler quand tu veux, man.
Je sais bien pas ce qu'il va arriver avec lui.
Parce que je voudrais pas être dans sa peau, moi.
Tu me caches quelque chose, je te connais.
En as-tu ça appris, belle vie?
Je suis amené de mentir.
Alors, on vient d'entendre un bout de la bande-annonce de la série Fragile qui est sur l'extra de tout.tv. Et j'ai avec moi un des acteurs principaux, Marc-André Grondin. Bonjour.
Salut.
Marc-André. Écoute, au moment où on se parle présentement, je n'ai pas terminé la série. Mais
moi
j'ai...
non plus, moi non plus.
Mais j'ai énormément de plaisir à la découvrir. Mmh. Des fois, on aime ça connaître la finalité d'un voyage. Moi, j'aime beaucoup le voyage en tant que tel pour me rendre jusqu'à la fin.
Ben oui. Oui. Surtout ça, c'est dans la séduction plus que dans l'acte que le plaisir est.
Bon, si on jase en matière de séduction, effectivement. Mais quand tu as reçu le scénario, est-ce que c'était aussi finement écrit? Est-ce que tu avais autant de plaisir à lire le scénario?
Ouais, vraiment. Puis... J'ai jamais eu la chance, évidemment, parce que j'ai jamais tourné avec Serge Boucher, de lire un scénario de Serge Boucher. Puis c'est une ride assez intéressante en tant que lecteur. En fait, il fait appel à ton intelligence beaucoup. Il y a beaucoup de non-dits. Même à l'écriture, tu le sens. Parce qu'évidemment, c'est des choses que, quand on regarde la série, on voit. C'est des regards, c'est des moments d'hésitation, c'est des phrases qui sont dites d'une certaine façon, puis qui laissent... possiblement présager quelque chose. Ou... Mais même à la lecture, tu le sentais, ça. Puis tu essaies de boucher les trous, tu essaies de remplir un peu les espaces vides, tu essaies de te faire une histoire dans ta tête, puis là, tu penses que tu as tout compris. Et là, Serge Boucher te pointe le doigt, puis il fait « C'était pas ça, pantoute! »
Effectivement, ouais. Puis souvent avec l'écriture de Serge Boucher, arrive une réalisation à la Claude Desrosiers.
Ouais.
Comment il vous a dirigé sur le plateau pour justement jouer toutes ces nuances-là? Ça vient de vous ou ça vient de lui? Ou...
Ah, c'est un travail d'équipe, là. On s'entend. Ça vient beaucoup de lui, évidemment, c'est le chef d'orchestre, là, mais ça vient pas juste de lui, nous. Ça vient de toute l'équipe technique. Ça vient de tout le monde qui est sur le plateau puis qui teinte ces scènes-là. Claude s'est entouré d'une équipe en qui il a confiance, avec qui il a fait d'autres projets. Il y avait une ambiance hyper calme, vraiment à son image. Puis je pense que même sa réalisation lui ressemble beaucoup. C'est quelqu'un de très doux, de posé, de profond, d'empathique. Puis on le sent vraiment beaucoup dans sa façon de réaliser. Il y a une belle poésie qui transparaît de ça. Il y a des choses qui... Je ne sais pas si lui avait ça en tête en le tournant ou ça s'est juste imposé, mais en regardant la série, je me rends compte de toute la poésie des plans qu'on a. C'est la shot de Félix qui est en... Je pense que c'est dans le premier ou deuxième épisode. Là, il y a une shot de Félix qui est en vélo, dans une tempête, sur une route de campagne. Félix qui a de la difficulté à convaincre les gens qu'il n'est plus la personne qu'il était avant de rentrer en prison. Il subit les regards des gens, le jugement, puis là, il est sur son vélo, en mitouflé avec ses goggles, son casque, puis il est protégé d'une certaine façon. Il est lui-même à l'intérieur de son kit de vélo d'hiver. Et en même temps, on voit pas vraiment bien, on distingue pas vraiment bien ce qu'il y a derrière lui. On voit pas ce qu'il y a devant lui non plus, parce que la caméra fait face à lui. Donc, il y a vraiment un truc où, comme dans la série, on comprend pas bien le passé. On essaie de comprendre le passé. On sait pas ce qui va arriver non plus. Fait que je trouve qu'il y a vraiment des belles images poétiques qui sont imposées, là.
Pour les gens qui n'ont pas encore vu la série Fragile, ça raconte l'histoire de deux garçons. Il y en a un qui sort de prison, Félix, c'est toi.
Mm-hmm.
L'autre travaille dans un garage. Il est incarné par Pierre-Luc Funk. Et c'est un peu leur amitié improbable où mm-hmm. va se dévoiler certains secrets.
Mm-hmm.
Est-ce que je peux dire autre chose sans dévoiler de punch?
T'es rendu plus loin que moi. Fait que
on voit leur famille, en fait, la dynamique familiale
ouais.
autour de chacun de ces personnages-là.
Ouais. Il y a beaucoup de secrets de famille. Hein. Je pense que c'est un thème aussi qui revient beaucoup chez Serge Boucher. Une famille peut avoir l'air de quelque chose puis s'en cache beaucoup des deux côtés. Mais comme je disais, Félix sort de prison, de la difficulté, il en arrache à faire sa place puis à faire la paix un peu avec, En fait, il essaie de faire la paix avec le fait que ben, lui se sent d'une certaine façon. Il sent qu'il est rendu quelqu'un d'autre, qui a maturé, qui a pris conscience de plein de choses. Mais les gens continuent de le voir d'une certaine façon. Donc, je pense qu'il y a vraiment une petite quête identitaire chez lui, une quête d'identité à savoir qui je suis réellement. Est-ce que je suis la personne qu'on dit que je suis? Est-ce que leur attitude me pousse à être la personne qui pense que je suis? Puis il rencontre... Ben, évidemment, Félix vient d'un milieu beaucoup plus riche. Son beau-père est propriétaire d'une papeterie. Ils habitent sur un gros domaine, tout ça. Et il rencontre Dominique, qui, lui, est un genre de jeune whiz mécanicien qui vient d'un milieu très modeste et qui le voit pour la personne qu'il est. Et en fait, pas juste la personne qu'il est parce qu'il est au courant quand même de ce qui est arrivé avant, mais il y a beaucoup d'empathie pour lui. Il est touché par ce personnage-là qui en arrache puis qui décide de lui faire confiance. Quelque chose que même sa sœur a un peu difficulté à faire, même si c'est elle qui est la plus proche de lui. Donc, ouais, cette amitié-là se développe. Il y a un moment où c'est ça, il tombe sur Félix qui en arrache vraiment beaucoup, puis il décide d'y changer les idées. T'sais. Puis s'ensuit une amitié beaucoup dans le partage puis la communication, mais aussi dans le secret. Là.
J'ai l'impression que ça prend énormément d'intelligence émotionnelle pour être acteur ou pour pouvoir jouer. Tu sais, on parlait des nuances dans la série. Il faut avoir de l'instinct, puis il faut être capable de décortiquer des émotions. Puis en même temps, j'ai l'impression que les acteurs veulent pas trop parler de leurs émotions parce que ça reste quelque chose de caché, de précieux chez eux.
Mais, j'ai pas croisé Alex Goyette là, depuis que j'ai fait du Serge Boucher, là, mais j'aurais envie d'en parler avec lui.
depuis qu'il a fait feu.
Ouais, c'est ça. Ben oui, ça fait appel à ton intelligence d'acteur, de lecteur aussi. Il y a des choix à faire.
Comme lesquels?
Ben, ce que tu veux montrer, ce que tu veux... C'est des énormes courbes de personnages. Donc, généralement, quand tu fais un rôle pour la télévision ou le cinéma, parce que là, c'est une série fermée d'une seule saison, donc c'est un peu comme un long film, t'as un départ dans ta courbe A, t'arrives à un point B... Il y a un changement, puis tu arrives au point C, qui est la fin. T'sais. Là, c'est un graphique c'est un graphique de finance. T'sais. Là, c'est genre, ça monte, ça descend.
Mais quand tu dis qu'il y a est-ce qu'il y a des mauvais choix qui peuvent se faire? Parfois, je parle pas juste de fragile, mais dans un tournage quelconque. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as tourné des mauvais choix?
J'ai fait des mauvais choix de projet, oui.
Des mauvais choix de projet, mais des mauvais choix de proposition.
De proposition, Oui. En fait, étant donné que je demande toujours à regarder les rushs, les rushs, c'est ce qu'on appelle les scènes qu'on a tournées la journée précédente. Il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui regardent pas ça. Il y a beaucoup de producteurs, réalisateurs qui sont très paranoïaques et osent pas non plus partager ça parce qu'ils ont peur que ça change ta façon de travailler. Moi, ça change ma façon de travailler dans le bon terme, là, dans le bon sens. Ben, c'est important, c'est comme un joueur de hockey qui finit une game, c'est important de s'asseoir puis regarder sa game puis voir qu'est-ce qu'il peut améliorer. Des fois, il a fait quelque chose puis il pensait que c'était bon, mais finalement, c'était pas ça pantoute, tu sais. Donc moi, à tous les soirs, généralement, je regarde ce que j'ai fait la veille puis j'essaie de corriger pour pas que je me retrouve justement à la fin, regarder le projet puis faire « Hey boy, je passe à côté d'une coupe d'affaires ». Là, j'ai le temps de le voir puis de réajuster un petit peu, tu sais.
OK, mais puis la conscience de faire ça vient de où ou quand est-ce que tu l'as eu?
Je me souviens plus exactement quand ça a commencé. Je pense que c'est sur l'affaire du Mont que j'ai demandé les rushs. Parce que j'ai vu des rushs genre sur Crazy, parce qu'ils m'ont emmené après comme un mois de tournage, ils ont partagé un peu à l'équipe pour que l'équipe comprenne un peu mieux ce qu'on faisait et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment l'affaire du Mont où j'ai vraiment commencé à étudier mon travail le soir en arrivant, en soupant à la maison.
C'est pénible ou pas à faire?
C'est pas pénible, c'est confrontant. C'est confrontant, ça, surtout sur un projet comme l'affaire du Mont où c'est un gros rôle de composition, c'est une grosse proposition qu'il faut que tu tiennes tout le long pour que ça fonctionne. C'est insécurisant, mais en même temps, j'en parlais beaucoup avec Pods qui lui aussi avait ses insécurités. Puis on se disait, à un moment donné, on s'est juste dit, je sais pas si les mondes vont comprendre ce qu'on essaie de faire, mais on a du fun en esprit, là. J'essaie de pas sacrer. Mais là, tu vois, avec le temps, ben c'est installé une façon de travailler qui fait en sorte que j'essaie de réajouter des choses. Mais tu sais, des fois, c'est même c'est même physique à la limite, là, c'est de voir comment tu peux avoir l'air de quelque chose à un certain moment, puis après ça, le lendemain matin, j'arrive, puis je parle avec le CCM, puis je fais comme, hey, avez-vous checké Rush, moi? Si vous pensez de ça, il me semble qu'on pourrait réajuster ça, on pourrait peut-être, je sais pas, rougir les yeux plus, on pourrait peut-être le maganer un peu plus. Je pense que j'étais pas assez cerné à ce moment-là. Puis tu sais, il y a comme plein de trucs de même qui font en sorte que c'est une collaboration avec tous les départements tout le temps. Fait que pour moi, c'est important de voir ce que je fais, mais voir aussi ce que les autres font. Voir les mouvements de caméra, la lumière, comment le dolly pusher pousse la caméra pour créer ses push-ins.
Le dolly pusher, ça, c'est quelqu'un qui pousse une autre personne.
Il pousse le caméraman, dans le fond. Ouais, donc, c'est lui qui fait le mouvement. Quand la caméra s'approche de quelqu'un, c'est lui qui donne le rythme à ça, tu sais. Donc, voir tout ça, comment tout le monde travaille, voir le son, la proximité, tout ça, fait... Je comprends mieux ce qu'on essaye de faire en général, puis ça me permet d'être plus en symbiose avec le reste du projet. Tu sais, c'est comme un musicien, à un moment donné, il faut que tu écoutes les autres aussi. Là. Tu peux pas jouer juste ta partition puis te dire comme, OK, moi, quand j'ai lu le scénario avant de commencer à tourner, moi, je me suis dit, ça va être ça, mon solo, puis là, t'arrives, puis c'est peut-être pas la même partition que tout le monde joue. Là.
Mais d'être conscient de la technique, c'est pas tous les acteurs qui ont ça. C'est parce que toi, tu y as touché à l'aspect technique. J'ai l'impression que ça teinte un peu ta façon de travailler.
Ouais.
T'as travaillé derrière l'écran aussi.
Ouais, mais c'est pas tant ça qui a changé ça. Je pense que c'est vraiment le fait que j'ai grandi entouré de techniciens. Fait que j'ai pas eu le choix de m'intéresser à ce qu'ils faisaient, là. Parce que c'était ma famille, tu sais. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 3 ans et demi, 4 ans, tu sais, j'ai commencé à faire du télévraiment à 4 ans, 4 ans et demi, je sais pas trop. Tu sais, j'étais entouré de gens qui devenaient ma famille pendant X nombre de mois ou d'années. Puis je trouvais ça intéressant d'y voir travailler. Puis avec le temps, ben je me suis rendu compte de l'importance qu'il y avait. Tu sais, je peux bien essayer de faire la meilleure performance possible, mais si je suis mal filmé, si le point est pas bon, si je suis mal éclairé, si on n'entend pas ce que je dis, si j'ai des traces de fond de teint d'en face, si mon costume est pas bien ajusté ou il y a un mauvais raccord, ça sert à rien ce que je fais au final. Là, tu sais.
Est-ce que tu pourrais réaliser à un moment donné?
Je sais pas. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je sens pas que là, je suis à ce moment-là dans ma vie nécessairement. Je pense que je l'ai plus senti il y a une couple d'années. Là, je suis peut-être rendu ailleurs, mais en même temps, c'est peut-être juste parce que je suis pas tombé sur le bon projet. Puis en même temps, je suis pas un scénariste, moi. Je pense que je suis un bon lecteur, je suis bon pour travailler des scénarios qui sont déjà écrits, des dialogues, mais je suis pas à partir d'une page blanche, c'est vraiment pas mon truc. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui le font parce que c'est un travail vraiment difficile.
Est-ce que tu trouves qu'avec le temps, parce qu'on t'a vu faire énormément de projets, est-ce que tu trouves que tu deviens un meilleur acteur?
Je sais pas.
C'est dur à répondre à ça.
Je sais pas. Quand je choisis des bons projets, oui. Je choisis des choses des fois qui sont pas nécessairement non plus pour la performance, là, qui sont juste pour le plaisir. J'ai fait des mauvais choix aussi, que je regrette pas nécessairement parce que j'apprends encore. Tu sais.
C'est drôle, de mémoire, je vois pas quel mauvais choix t'aurais pu faire.
Ben quand l'entrevue se terminera, je te nommerai une couple
d'accord.
De
on va garder ça pour nous
non,
deux.
Non, mais tu sais, il y a eu des projets qui sont révélés à être vraiment pas très bons, puis il y en a qu'on s'en est rendu compte après que le film soit terminé, d'autres... Mais généralement, on s'en rend compte. La plupart, tu t'en rends compte la première journée, là, des fois... En préparation de tournage, tu le sais, là.
T'as déjà pogné les nerfs sur un plateau ou en cours de projet en disant « Hey, je m'excuse, mais c'était vraiment pas ça. C'était pas ça. »
Je me suis engueulé une fois dans ma vie, pas dans ma vie, là, dans ma vie professionnelle, je me suis engueulé une fois avec un réalisateur. En 32 ans, je sais pas trop, là, de travail. Parce que je savais qu'il faisait pas la bonne chose. Je savais qu'il y avait pas le... J'étais déçu de ce qu'il faisait. Je savais qu'il était en train de ruiner le projet, puis qu'il manquait beaucoup de respect à beaucoup de gens. Puis à un moment donné, c'était trop. Fait que, mais sinon même, il y a des projets... Tu sais, c'est ce que je peux considérer peut-être comme le projet le plus poche que j'ai fait. J'ai eu quand même beaucoup de plaisir. J'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est arrivé un bon moment dans ma vie. Tu sais, il y a comme... J'apprends. Il faut apprendre à ses erreurs aussi. Tu peux pas juste faire des succès. Puis, il faut que tu travailles aussi, il faut que tu manges. Puis à ce moment-là, ben, si t'es pour choisir quelque chose qui est plus alimentaire, mais aussi bien avoir du fun à le faire. Tu sais.
Il y a des conditions de tournage aussi. Par exemple, dans Fragile, il fait froid, hein, je pense.
Ouais.
Ça avait tourné l'hiver.
Ouais.
C'est un calvaire, ça, pour un acteur d'aller tourner de même?
Ben oui, puis non. En fait, on nous en parle beaucoup. Puis c'est vrai qu'il faisait froid et tout ça. Mais
vous aviez des petits hot shots.
On
dans...
avait plein de trucs. Je salue Marie-Hélène. On a vraiment pris soin de nous. Mais... c'est facile de jouer l'hiver quand on joue l'hiver, tu sais.
Mais ta mâchoire ne barre pas un moment donné?
Ouais, un peu, mais c'est moins pire quand tu joues. Tu sais, juste avant de faire Fragile à l'automne, j'ai fait Mafia. Quand on a commencé puis on a terminé Mafia, j'avais une chemise déboutonnée à 3-4 boutons avec un petit coat ouvert, puis au grand vent à 6 degrés. Là, c'est supposé d'être l'été, c'est là que c'est rushant. C'est là que tu sais, je pense qu'il y a une scène dans Mafia où. J'ai eu bien froid quand j'étais petit là, sur des plateaux, là, mais là, je pense que c'est la fois que j'ai eu le plus froid en faisant du scène. Je forçais, là, je contractais toutes les muscles de mon corps pendant qu'il calait le moteur, puis l'action, je lâchais, je jouais, puis à couper, là, je grelottais, là, les dents claquaient. T'sais. Parce que j'étais juste en t-shirt avec un coton watté. Mais quand tu joues l'hiver, c'est pas si pire. Puis tu sais, c'est tellement payant visuellement au final dans Fragile. Puis je le sais, j'ai appris ça très tard qu'au final, qu'au départ, la série avait été pensée l'été. Puis pour plein de raisons, ça s'est fait l'hiver. Puis je trouve ça tellement plus beau l'hiver au final. Je pourrais pas imaginer ça l'été. Vraiment pas.
C'est vrai. Pierre-Luc Funk et toi, c'était une rencontre sur le plateau.
Ouais.
Écoute, je suis assez impressionnée du jeu de Pierre-Luc aussi, qu'on a peut-être moins vu que toi dans des rôles dramatiques.
Ouais.
On commence à le voir davantage. Mm-hmm. Votre dynamique sur le plateau?
Ben, je l'avais croisé une couple de fois là, dans ma vie, donc je savais qu'il était bien drôle puis bien fin, mais j'avais jamais pensé travailler avec lui, justement aussi parce que, comme tu disais, on l'associe tellement à des trucs comiques, des trucs jeunesse, qu'au final, ben moi, c'est rare que je fais ça. Là, pas nécessairement juste par choix, mais c'est parce qu'on m'offre pas ce genre de trucs-là. Puis quand Claude Desrosiers m'a dit que ça allait être Pierre-Luc Funk, au premier rendez-vous, là, c'était dès le départ. Là, je pense qu'il avait déjà imaginé le duo. J'étais surpris, agréablement surpris. Je trouvais que c'était un duo auquel je m'attendais pas, auquel les gens n'allaient pas s'attendre non plus. Et j'ai découvert j'ai envie de dire un garçon, un jeune homme, mais un gars qui est très talentueux, très généreux aussi, hyper professionnel. Ce gars-là, il tourne comme un débile. Il a un horaire de fou. Évidemment, il y a une énergie qui va avec. Là. Je pense qu'il y a des gens qui sont filés différemment. Là. Il y en a qui se réveillent avec énormément d'énergie, là, ce qui n'est peut-être pas mon cas. Mais il y a beaucoup d'énergie, mais il travaille énormément. Il faisait 12 millions d'affaires, il n'y avait jamais de journée off. Puis malgré tout, il est là pour faire sa job, il connaît son texte, il sait quoi faire. Il est généreux quand la caméra n'est pas sur lui. Si c'est une journée difficile où tout le monde est amorphe, ben il prend sur lui d'essayer de détendre l'atmosphère. C'est un foutu beau collègue de travail, puis je souhaite à tout le monde de travailler avec quelqu'un comme ça parce que ça rend vraiment le plateau agréable. Il a vraiment teinté beaucoup le tournage de sa personnalité puis de sa présence, puis de son talent.
Est-ce que tu as des exigences quand tu tournes avec une actrice, un acteur? Je sais, on avait déjà parlé de Depardieu, là, les lignes et tout ça. Quelqu'un qui ne sait pas.
C'est vrai que j'oublie,
lignes,
ça fait longtemps qu'on se parle. Une couple d'années que tu fais ça.
J'ai une conversation en continu, c'est-à-dire que j'oublie pas ce que tu m'as raconté avant, mais tu sais, on sait que Depardieu, des fois, lit des lignes sur des cartons, là, mais est-ce que quand on tourne au Québec, j'imagine que.
Non, ça arrive
pas. Mais y a-tu des exigences? Qu'est-ce qu'on s'attend quand on a un acteur en face de soi pour faire des scènes aussi importantes que dans Fragile?
Je sais pas exactement. J'ai rarement des problèmes. J'ai rencontré beaucoup plus de complexité de travail d'acteur à acteur en Europe qu'ici. Là. Des fois, je peux peut-être trouver que c'est peut-être pas l'affaire la plus juste ou le bon choix que l'autre personne fait parce que c'est pas comme ça que j'imaginais le truc, mais c'est pas à moi de caler ça, c'est au réalisateur. Là.
Est-ce qu'on a moins d'égo au Québec, ce qui fait qu'on est peut-être
meilleur
des
totalement,
fois?
Oui, totalement. Ouais. Puis je pense que c'est juste le... ça fait partie de notre culture, là, je pense, premièrement. On est beaucoup plus anglo-saxon dans notre culture qu'on est français, je pense, souvent. On est moins coq. Mais non, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a tellement peu de jobs. On est tellement chanceux d'avoir un projet que quand on réussit à avoir un job, on est reconnaissant, puis on travaille fort, puis on veut qu'on travaille pour notre prochain job. C'est comme si tout le monde au Québec, incluant les A, comme on dit, là, les gros noms, là, tout le monde joue comme s'il était sur le quatrième trio. Fait que tout le monde joue à chaque présence, ils jouent pour la prochaine présence puis la prochaine game. Puis ils savent que c'est pas parce que tu viens de faire un lead que nécessairement tu vas avoir juste des leads le restant de tes jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu gagnes un trophée que tu vas travailler le restant de tes jours. T'sais. Comparé à en Europe ou aux États-Unis où tu gagnes un Oscar, là, si tu tournes plus, c'est ta décision. Là. Il va toujours avoir quelqu'un qui va être prêt à te payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour tourner quelque chose. T'sais. Fait que je pense qu'ici, il y a beaucoup plus de générosité, puis de reconnaissance, puis d'humilité. Mais il n'y a rien que je me dis. Je n'ai pas une liste que je coche quand je rencontre quelqu'un ou quand je commence à travailler avec quelqu'un. Faut que la personne ait une certaine intelligence. Puis ça, généralement, quand tu te retrouves à travailler avec quelqu'un, si le casting a bien été fait, la personne a l'intelligence du lecteur, puis... Puis la sensibilité pour rendre le truc, puis l'intérêt. Je pense que quand t'es acteur, faut que tu sois intéressé par l'autre, faut que tu sois curieux. T'sais. Moi, je me souviens toute mon enfance, je prenais le bus puis le métro pour aller au secondaire à tous les jours. Je partais de Pointe-aux-Trembles pour aller jusqu'à Rosemont. Je passais 2h30, 3h de temps dans les transports en commun par jour. Puis évidemment, j'allais pas checker ma pagette tout le long là. Fait que je regardais le monde.
Une pagette, oui.
Ouais, j'adorais regarder le monde, tu sais. C'est ça, c'est l'intérêt de l'autre, c'est l'empathie que tu peux avoir pour des gens que tu connais pas puis qui viennent te nourrir. Fait que sur un plateau, c'est comme ça. Faut que tu sois intéressé par la personne avec qui tu travailles. Faut que tu sois intéressé par... Tu sais, moi, quand je commençais à travailler, j'étais intéressé par Pierre-Luc. J'avais envie de le découvrir, lui. Parce que lui, c'est une partie du personnage aussi, d'une certaine façon, tu sais. Puis on le sent souvent, ça. Cet intérêt-là, cette empathie-là, cette curiosité-là, cette douceur-là de... Parce que tu te retrouves à être en proximité avec quelqu'un au-delà des heures que tu passes avec, puis que t'es fatigué, puis c'est difficile, puis tu manques de sommeil, tu manques de lumière, tu manques de tout. Tu te retrouves souvent à poser des gestes ou à vivre des choses qui sont très personnelles. J'ai des amis à moi de qui je suis très, 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 très proche qui m'ont jamais vu pleurer. Là, jamais. Puis Pierre-Luc, je le connaissais pas, puis il m'a vu pleurer comme j'ai rarement pleuré dans ma vie, là, tu sais. Pendant des heures, tu sais. Parce que c'est ça l'affaire, quand il y a une
parce
scène
que,
de.
Parce que la
pleures.
Charge est trop forte?
Non, parce que c'est ça qu'il faut que je joue. Okay. Puis je viens taper dans des trucs bien personnels.
Mais
aussi,
c'est ça,
t'sais.
Mais est-ce que ça reste après? En deux, tu sais,
pas moi,
t'arrêtes pas de pleurer trois secondes après la prise.
Non, mais non, malheureusement, parce qu'on tourne pas aussi rapidement. Fait que. Puis il y a plusieurs plans à faire. Fait que, tu sais, je me souviens, il y a une grosse scène d'émotion où. Je pense que j'ai braillé pendant 2h30 de temps en continu. Là. Parce qu'il fallait que je le garde. Parce que je savais que. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je suis pas le genre d'acteur qui fait juste cliquer des doigts puis il se met à pleurer. Là. J'ai pas les valves aussi slack. C'est un peu bizarre à dire, mais. Fait que c'est ça. Fait que moi, une fois que c'est parti, il faut que je le garde. T'sais. Mais ça a duré, je sais pas, 2 heures. Là, genre. C'était long. Là. C'était. Puis c'est un beau test pour une équipe, ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, on vit des choses super personnelles. T'sais, des fois, tu peux te retrouver avec... sur Spotless, je me suis retrouvé à la première journée de tournage. La deuxième scène qu'on faisait, c'était une scène de sexe. T'sais. Fait qu'il fallait qu'on ait une complicité, l'actrice puis moi, parce que ben, finalement, justement, je trouvais que c'était une mauvaise idée à l'époque. Puis 6 mois plus tard, on a fait un reshoot, là.
Fait que ça arrive.
C'est, j'avais raison, je pense. C'était peut-être pas un bon choix de mettre ça en première journée, mais oui, c'est ça. Tu viens à vivre des choses. Puis avec toute l'équipe aussi, là, quand j'ai fait l'affaire du monde, là, j'ai une scène, je me levais à la poche, je m'écartais les fesses. Là. Fait qu'il faut que je sois proche de la maquilleuse, là, pas mal.
La France s'en est rendue où dans ton plan de carrière? C'est-tu quelque chose que tu as abandonné? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse encore?
La France n'a jamais fait partie de mon plan de carrière.
C'est accidentel comme
c'est
ça?
C'est accidentel. C'est un bel accident. Mais moi, j'ai commencé à travailler en France sans cogner à aucune porte. Évidemment, quand ils m'ont tendu la main, je suis allé là, 2 fois, 3 fois faire des rencontres, je sais pas trop. Mais j'ai pas fermé la porte, mais ça n'a jamais été un plan de carrière. J'ai travaillé pendant un bout de temps parce que la job arrivait, puis j'avais rien au Québec qu'on m'offrait, littéralement, là, ou très peu. Donc, je continuais à travailler là-bas. J'avais une copine en Europe, donc j'ai trouvé n'importe quelle raison de rester là-bas. Mais non, c'est ça. Tu sais, j'ai toujours dit, ça fait 15 ans que je le dis, tu sais, j'ai envie de travailler ici, je veux travailler ici. Puis là, ben, je travaille plus ici que là-bas. Même si les gens continuent à penser que je travaille là-bas plus qu'ici.
Mm-hmm.
Ça fait 7 ans, je pense, que je n'ai pas tourné en France.
Ouais, mais
en français. Parce que j'ai tourné pour les Français sur Spotless, qui était Canal+, mais c'était à Londres, en anglais, il y a 5 ans. Mais sinon, avant ça, je pense que c'était genre L'Homme qui rit, qui n'était même pas été tourné en France, qui était tourné en République tchèque. Tu sais, je ferme pas de porte, j'ai encore un agent là-bas. À chaque fois que je fais un crochet par l'Europe, j'arrête à Paris, j'ai des meetings, mais je suis pas. C'est pas. Tu sais, si on m'offre un film en France puis un film au Québec, je préfère faire le film au Québec.
Pour mais moi, t'as quand même eu des beaux projets, là, ici, là. Tu sais, l'imposteur.
J'ai eu des projets extraordinaires, c'est ça, l'affaire.
L'imposteur Mafia Inc., Fragile.
Ah, mais Tudor Nicole, Vic et Flo.
Ouais.
J'ai été très chanceux, Les Affamés. Tu sais, j'ai été vraiment chanceux de faire des beaux projets. Je travaille pas assez à mon goût. J'ai plus d'énergie que ça pour travailler plus que 3 mois par année.
Parce qu'on en est moins conscient de ça, que vous tournez 3 mois seulement,
ouais,
par année. Tu sais,
ouais.
On pense que vous êtes, parce que vous êtes dans nos têtes, nos cœurs, et à la télé quasiment,
ouais,
toute l'année. Tu sais.
Oui, oui, puis, mais c'est ça. Tu sais, puis là, je fais autre chose. Puis je suis super occupé quand je tourne pas. Puis je suis super heureux. Puis ça va bien. Puis je suis dans une super belle période dans ma vie. J'étais à un bon moment. Je me sens bien à ma peau, de gars de 35 ans.
Ah,
bien
t'as
plus
l'air moins sauvage. T'as l'air moins sauvage qu'à une certaine époque.
Ben, je pense qu'on me projetait beaucoup ça, là. J'étais pas si sauvage, mais je pense que je deviens juste plus à l'aise. J'assume plus qui je suis, puis je suis moins en opposition, pas en confrontation face à mon statut. Je pense que j'essaie juste de faire, ben, amuse-toi. Évidemment, puis je le dis malheureusement, là. Je lève pas le nez là-dessus, mais tu sais, je ferai pas de quiz. Puis c'est pas parce que je suis sauvage, c'est juste parce que.
Pas de pub non plus.
Je suis tellement gêné que je vais être mauvais.
T'es
ça me
gêné.
Tente pas. Ma mère me gosse depuis 2 mois pour que je fasse Silence on joue.
En direct de l'univers. Puis, je sais
ouais,
pas.
Non, mais je l'ai fait en direct de l'univers.
Ouais,
je l'ai
okay. fait.
Non, mais je fais des quiz, là. Ouais, des okay. quiz, là.
Toi, tu parles du quiz peu
parce que je suis tellement timide devant public. Puis je suis tellement conscient à la télévision que je bloque, tu sais. C'est vraiment pas parce que, tu sais, je sais, quand j'ai fait de l'imposteur, ils nous avaient invités, genre, je sais pas trop, tricheur, un truc comme ça. Là. Puis Guillaume Seuil était comme, voyons, vas-y, on va avoir du fun. Puis tout le monde me dit, c'est tellement le fun faire des quiz. Tu te retrouves en gang, t'as du fun, t'en fais une coupe, tout ça. Mais je suis trop gêné. Puis ça fait partie de moi, tu sais. C'est ça. Mais j'ai jamais été sauvage. C'est juste que je pense que je me protégeais, puis j'étais en opposition face à bien des affaires. Puis si tu vois, il y a 15 ans, après avoir fait Crazy, on m'a offert de faire de la radio. Puis là, j'étais là, j'étais une réaction très anarchiste, de genre, je veux jamais faire ça. Mon père était dans la radio, il s'est fait mettre dehors pour mettre des acteurs puis des humoristes à la place. Puis là, moi, on m'offre ça parce que je suis le flavor of the month. Puis là, finalement, ben 15 ans plus tard, je me dis, j'en ferais peut-être la radio, je sais pas. je suis rendu là. Je suis rendu à un point dans ma vie où je fais la paix avec certaines choses. Là.
Ben, est-ce que j'adore ça, moi, que tu deviennes moins sauvage, justement?
Arrête de dire ça, j'étais pas sauvage.
Moi, je te voyais comme quelqu'un de sauvage.
Ben non, j'étais juste timide, puis c'est ça.
Merci beaucoup, Marc-André Grondin. On
Merci
regarde évidemment Fragile, qui est sur l'extrait de Tout.tv, qui éventuellement sera diffusé à Radio-Canada. Et au mois de février, il y a Mafia Inc.
Ouais.
qui s'en vient. On va avoir la chance de se reparler.
Merci beaucoup.
Merci.